Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tournons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un habile jardinier de l'eau et des plantes aux vertus méconnues nous rejoint sur les ondes. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Jérôme Sergent, je fais partie d'un écolier nourricier pédagogique qui s'appelle Dorivan-Ève, qui est situé à Rugny, un petit village de 250 habitants dans les hauts pays du Montreuil, entre Saint-Omer et Montreuil-sur-Mer. Je cultive des plantes, des orties, des consoudes, à destination en fait, de préparation naturelle peu préoccupante, dans l'idée de proposer une alternative en fait, aux produits de synthèse, tout ce qui est phytosanitaire, pesticides, fongicides, herbicides, à destination des agriculteurs, et une autre préparation qui n'est pas très connue non plus, en fait, qui s'appelle la livofer, autrement dit litière forestière fermentée, qui est un engrais organique et un biostimulant microbien, donc qui accompagne la vie des plantes et la vie des sols, à se régénérer et justement à faire qu'on sorte du carcan traditionnel dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je n'ai rien à voir avec le monde agricole de prime abord, ou en tout cas de par mes études, j'ai fait un bac STI, génie électrotechnique. Au départ, je me destinais davantage à travailler dans le monde de l'industrie, donc un monde que tout oppose. J'étais très intéressé par le son, tout ce qui est vibrations acoustiques et signal. Donc j'ai fait un DUST, une première année en tout cas, à l'école du Mans, à l'université du Maine. C'était trop scolaire pour moi et du coup, je n'ai pas suivi. Et à côté de ça, j'ai un parcours qui est assez atypique dans le sens où j'ai des expériences dans multiples domaines. J'ai à la fois été animateur radio sur Radio Campus à Lille. J'ai aussi eu un groupe de musique pendant plus de 18 ans sur le Béthunois. Je travaillais dans la restauration, je travaillais à la poste. Enfin, j'ai un CV qui tient sur 3 pages. Et à la fois, toutes ces expériences étaient intéressantes et justement, elles font ce que je suis aussi devenu aujourd'hui avec les connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Et donc le parcours installation, je l'ai commencé il y a 10 ans. Donc j'ai suivi en fait une formation autour de la permaculture notamment. Ça a été un petit élément déclencheur. Pendant ces 10 ans, je suis allé à la rencontre de pas mal de personnes justement un peu partout en France. Parce qu'il se trouve qu'il y a des connaissances qui ont encore du mal à émerger par chez nous. Il n'y a pas d'autre choix à l'heure actuelle que de descendre dans le sud, bien souvent en Drôme, pour dire d'apprendre justement des connaissances un petit peu plus actualisées. Que ce soit scientifique, technique ou pratique. Par exemple, une formation verger maraîcher, une formation autour des préparations naturelles peu préoccupantes, de la livofer, une formation aussi autour de l'hydrologie régénérative. Et voilà, c'est ce qui fait ce que je suis devenu aujourd'hui. J'étais très intéressé par la musique, par le monde de la culture. Donc depuis que j'ai entamé ce parcours-là, ça m'a tellement aspiré, entre guillemets. Il y a tellement de choses à découvrir et tellement de choses intéressantes justement à découvrir que, au final, à l'heure actuelle, mon seul centre d'occupation, en fait, on va dire que c'est principalement ça. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la coopération, les biais cognitifs ou des choses comme ça qui me freinent à comprendre à la fois moi-même comment j'interagis avec d'autres, à la fois moi à voir un petit peu les biais relationnels qui s'opèrent devant moi et que je peux constater, que je tente entre guillemets d'accompagner humblement et à ma juste place.
Un coquelicot bien établi, mais sous le signe de la barocorie, se plaint un jour de voir tomber.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en 3 mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Magique, surprenant, épatant. C'est les 3 premiers qui me sont venus à l'esprit. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement. Qu'on se met un peu sur une contemplation, juste ne serait-ce que d'observer, c'est juste magique. Et moi, je reçois beaucoup d'émotions, en fait, de joie aussi à voir ça, parfois un peu de tristesse. Et c'est un petit peu tout ça qui s'entremêle à la fois. Ne serait-ce que ça me permet de me rendre compte que moi-même, je suis vivant, en fait. Quoi. le fait de s'attarder sur tout ça.
Comprenez à dos.
Les couleurs, au final, c'est un petit peu comme l'arc-en-ciel, il y en a tellement qu'on ne sait laquelle choisir. Alors, en tout cas, c'est une belle palette. En termes de goût, il y a un goût justement qui existe dans la culture asiatique, et, notamment chinoise. Umami, c'est pas ça, je crois, il me semble. Et qui est un peu l'alliance, différents goûts, différentes saveurs. Je trouve que ça correspond bien également au vivant. Et un animal qui, moi, m'intéresse beaucoup. Le castor aussi, sans s'en rendre compte par les aménagements qu'il propose. Pour lui, avant tout, en fait, il offre de multiples micro-habitats pour tout un tas d'autres animaux. Et c'est ce qu'on appelle une espèce clé de voûte. Et je trouve que, justement, il serait grand temps de s'en inspirer avec ses 8 millions d'années d'expérience. Je pense qu'il a beaucoup à nous apprendre si on revient à notre juste humilité. Alors, pour ce qui est de l'odeur, je serais tenté de dire l'odeur suave des fleurs au printemps, et notamment justement le sureau. D'ailleurs, comme son nom l'indique, est sur l'eau. C'est un délice en fait justement pour les narines au printemps venu, d'autant plus que c'est une des premières fleurs arrivées au printemps. Quand on voit toute la vie foisonnante en fait justement qui gravite autour, c'est que du régal. Après, c'était un son. Il y a un professeur qui s'appelle Marc Henry qui justement a beaucoup creusé les questions au sujet de l'eau. Il a travaillé sur les liens entre l'eau et le vivant, notamment autour du son et des fréquences. La fréquence qui est liée à l'eau entre en résonance avec tout le vivant, qui montre encore une fois l'intérêt de s'attarder sur la question de l'eau. La fréquence est 429,26 Hz, et c'est un peu le diapason en fait du vivant. Et donc la texture, celle d'un sol fertile, à même de pouvoir recevoir toutes les eaux, ou en tout cas le maximum, et qui grouille de vie. En tout cas, c'est l'alliance de l'ensemble des règnes vivants, à la fois minéral, à la fois végétal, et à la fois justement organique, avec toute la vie, hydrophone, macrophone. Au même titre que le castor participe de concert à rendre les sols vivants.
Avec des puces pour seul voisin, si je pouvais, je me gratterais bien.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Je est un nous. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Poiron qui a écrit ce livre-là, qui me parle beaucoup dans l'idée de dire on va plus vite ensemble, on va plus loin. Je m'inspire beaucoup des fonctionnements du vivant dans le sens par rapport à la systémie. Tout ce qui est notion fractale, c'est-à-dire du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit, de faire alliance avec toutes ces synergies et toutes ces connaissances, toutes ces compétences, permettre vraiment d'agir pour le vivant et non pas contre lui. S'inspirer de tout ça, je pense que c'est salvateur au-delà même de sa propre vie. Si,
rebelle rêveur, ma vie ne manque pas d'air, elle est belle à voler.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Je pense que le rôle de l'humain, c'est de redécouvrir un petit peu tout ça avec des yeux nouveaux, des yeux neufs, un regard neuf chaque jour. Comme un jardinier, de cultiver un petit peu toute cette magie, pour dire de faire en sorte qu'elle puisse s'aggrader et non pas se dégrader. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois la place de l'humain. Je pense que c'est son rôle, en fait, justement, aussi sur Terre. Et tout en gardant sa place d'humilité, et l'image comme le castor dont je parlais tout à l'heure, à coup d'essais-erreurs, se dire aussi que justement c'est à travers les échecs qu'on apprend et que de fait c'est pas quelque chose de négatif. Il y a des enseignements à tirer de ça et faut pas entre guillemets s'auto-flageller, même si de par une action on constate que au final ça ne fonctionne pas. Ok, mais c'est déjà on peut se réjouir déjà de ça parce qu'en fait on constate que ça n'a pas fonctionné, mais du coup, ça nous permet aussi de réajuster un peu le tir et de retrouver aussi, je vais refaire un lien d'ailleurs avec l'humilité. Et tous ces termes-là aussi, ils ont, en tout cas, il y a une racine commune, c'est l'humus, du coup, qu'on retrouve là aussi dans le sol. Et l'humanité, elle se trouve là-dedans en tout cas.
Je suis rêveur fort rebelle rêveur.
On va passer à la question d'actualité. Dans le précédent épisode Feuille de Chou, en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, était présenté le rapport émis par le Chief Project, intitulé « Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère ». Ce rapport est le fruit d'un travail alliant scientifiques, techniciens, mais également agriculteurs, via une consultation publique réalisée de sorte à réunir plus de 7700 d'entre eux sur les thématiques de transition écologique. Pour 90%, la transition vers des pratiques agroécologiques est envisageable si une aide leur est allouée et qu'un suivi technique est assuré. L'idée principale de ce dernier projet, du SHIFT, est de concilier réduction de l'empreinte environnementale, résilience des systèmes agricoles et viabilité économique des exploitations. Chaque problématique soulevée est traitée de sorte à atténuer le bilan carbone négatif actuel et qu'à horizon 2050, une autonomie agricole soit assurée. Il demeure de nombreux freins à la mise en œuvre des solutions proposées. À l'heure de la révision prochaine, future de la PAC, du projet de loi d'orientation agricole, du nouveau mandat européen, ce rapport se place pour conseiller afin d'obtenir une trajectoire opérationnelle dite viable et fiable, dans le contexte de crise du vivant, climatique et socio-économique actuelle. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Je salue le travail justement réalisé par le SHIFT Project. Justement, comme tu l'as dit, c'est la première fois qu'il y a une enquête qui soit aussi large et qui a recueilli autant d'avis du public agricole. 7700, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, j'y ai contribué pour la petite histoire. Après, à mon sens, c'est encore une vision qui est trop technologionniste. Quand on sait un petit peu les impacts par rapport à l'extraction des ressources, d'ailleurs, tu parlais d'exploitation agricole, en fait, justement, on peut aussi faire le parallèle avec l'exploitation minière, l'extraction minière. Et d'ailleurs, aux yeux, on va dire, du monde de la finance, le milieu agricole est perçu comme un producteur de minerais. Ça montre bien la déconnexion entre le monde de la finance et la réalité très terre-à-terre du métier d'agriculteur ou de cultivateur ou de paysan, comme j'aime à l'appeler. Par rapport à l'histoire de l'autonomie énergétique, là c'est pareil, il y a énormément de travail à faire. Et quand je lis pour 2035 un petit peu les prévisions qui sont données, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus en fait de ce côté-là. Ce que je perçois en premier lieu, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 390 000 agriculteurs en France, enfin, exploitants agricoles, comme on nous appelle. Justement, début 1900, 95% de la population française était une population dans le monde de l'agricole, à mettre les mains dans la terre. À l'heure où on parle de souveraineté alimentaire actuellement, juste des chiffres comme ça, hein, y a un site internet qui est très bien fait qui s'appelle territoirefertile.fr, au pluriel, et justement qui territoire par territoire, que ce soit à l'échelle des communes ou à l'échelle des Comcom ou des Comdaglo et compagnie, permet de se rendre compte un petit peu du modèle agricole existant. Et quand on voit ça, on se dit que les prévisions du SHIFT Project, si ambitieuses soient-elles, on se rend compte de la marche à gravir. Elle est énorme. Et quand on voit le traitement de ce sujet, en fait, justement, de par nos élus, qui eux-mêmes, pour la plupart en tout cas, sont vraiment déconnectés de tout ça, j'ai du mal à voir une réelle volonté, en fait, on va dire, pour la plupart des partis politiques, si ce n'est certaines personnes, je pense notamment une députée qui s'appelle Marie Pochon, qui dans la Drôme fait un travail qui est juste c'est merveilleux, en fait, quoi. Il y en a d'autres aussi, il y a Elisabeth Louco. Bon, encore une fois, peut-être une préférence, j'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'elles agissent véritablement, en fait, sur ces questions-là. Elles n'hésitent pas, elles mouillent la chemise et elles disent tout haut, tout le monde ne veut pas voir. D'ailleurs, là aussi, on pourrait faire un lien avec l'eau. En tout cas, par rapport aux inondations, une fois qu'elles sont passées, il n'y a plus personne qui va en parler. Le sujet est passé, on passe au suivant. Et c'est aussi ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'actualités, d'informations et tout ça. Il y a aussi beaucoup de désinformations à l'heure actuelle. Et de plus en plus même, on passe d'un sujet à un autre sans réellement se soucier, s'attarder. Il serait temps d'arrêter un petit peu la machine et puis de se poser autour d'une table et de se dire, les constats sont là. Qu'est-ce qu'on décide de faire conjointement ensemble et de redonner un petit peu de pouvoir aussi aux citoyens. La crise démocratique qu'on vit actuellement, elle est sans doute issue de ça, du mépris à la fois de classe et tout ça. Mais au final, c'est toujours les mêmes qui décident et il n'y a pas de concertation, il n'y a pas d'efforts de dialogue territorial. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant que j'invite aussi à étudier de près. Il y a une association qui s'appelle GESER, qui a créé une structure qui s'appelle Dialter. Ils agissent un petit peu partout au niveau national. Ils sont déjà intervenus plusieurs fois dans la région de France. Ce qu'ils font, c'est avec une posture très neutre, de permettre le dialogue en fait justement entre des personnes qui à l'heure actuelle sont complètement déconnectées les unes des autres et qui du coup c'est beaucoup de conflits d'intérêts aussi qui s'affrontent. Et je pense que justement ce genre d'initiative permet en fait de prendre le temps de décider conjointement quelle est là où les meilleures stratégies sont, parce qu'il n'y a jamais une seule solution, c'est toujours un ensemble de solutions qui seront à mettre en œuvre. Et moi, ce que j'espère, c'est tout comme l'atelier paysan, tout comme la Confédération paysanne peut le dire depuis longtemps, il est grand temps qu'il y ait du monde qui retourne à la terre pour dire de se rendre compte de l'errance dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et ils appellent à 1 million de paysans avec l'atelier paysan. Même 1 million de paysans, en fait, justement, ce sera pas suffisant pour dire de se sortir de l'énergie fossile. Donc ça montre bien le fossé, qu'il y a une expérience qui nous vient d'Inde, donc du coup un retour d'expérience, où là-bas 10% de la population travaille dans le monde agricole et arrive à subvenir bien mieux que nous en fait à la souveraineté alimentaire. Et donc si 10 millions de Français, en gros ça fait 6 500 000 agriculteurs en France, quoi. Donc c'est pas non plus tant que ça et c'est pas la majorité. Et si c'est le chemin vers lequel tendre, ça montre justement la marche. Je rappelle le chiffre, 390 000 agriculteurs aujourd'hui. Bon, voilà, enfin, on sait ce qui convient de faire, quoi.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Pour ce qui est de notre livre, donc là, on rentre dans la saison un petit peu hivernale. Donc, nous, on, un petit peu comme le vivant, en fait, on ralentit un petit peu le rythme. On prend le temps de récolter un petit peu tout ce qu'on a semé dans l'année, tout ce qu'on a planté, tout ça. Pour l'heure, il n'y a pas véritablement en fait de chantiers qui sont initiés, si ce n'est l'un d'entre eux, dans le cadre de l'association pour une hydrologie régénérative au niveau national, celle de chaque territoire des agences de l'eau. Donc chez nous, c'est l'agence de l'eau Artois-Picardie. L'idée, c'est d'initier un collectif, de sorte de pouvoir répandre ces principes-là, qui, à notre sens, permettrait non seulement de réguler, d'atténuer les effets des règlements en fait, des cycles de l'eau, par rapport au climat aussi, parce qu'il y a, un très grand lien, par rapport à la crise de la biodiversité aussi, donc c'est vraiment intéressant, je vous invite à regarder. Il y a une chaîne YouTube, il y a tout un tas de ressources aussi, il y a un site internet. J'ai parlé de quelqu'un qui s'appelle Hélène Grosbois, qui a écrit un livre là, qui est sorti récemment, qui s'appelle « La disparition du vivant et moi ». Comprendre pour changer. Et donc ça, c'est aux éditions Marabout, qui dresse un petit peu le constat de la situation dans laquelle on est, parce que de ce que j'observe, c'est qu'on fait beaucoup le focus du taux de carbone en fait justement dans l'atmosphère. Certes, c'est important, mais c'est pas le seul sujet. Et au final, justement, il y a de plus en plus de scientifiques qui commencent à dire aussi, peut-être que si on s'inquiétait de la biodiversité, ça aurait un impact sur le carbone. Enfin, c'est un petit peu l'esprit en fait de ce livre-là. Sur la question de l'eau, il y a Charlène Descolonges, qui est la cofondatrice de notre association pour une hydrologie régénérative, qui a écrit un livre qui s'appelle « Agir pour l'eau ». Et donc, qu'on soit citoyen, qu'on soit agriculteur, qu'on soit technicien, qu'on soit élu ou en tout cas n'importe quelle autre posture, on a vraiment tous un moyen en fait d'action. Et donc, elle en dresse un certain nombre dedans, dans ce livre « Agir pour l'eau ». C'est aux éditions Tana, et aussi une ressource que je vous invite à regarder durant les mois d'hiver, un petit peu comme je vais le faire prochainement. Voilà.
Du temps où je n'étais qu'une gosse, ma grand-mère me disait souvent, assise à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés. Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté.
Les urchures, les arbres, entre visibles et invisibles. L'homme moderne est malade de n'avoir plus de racines, ni dans la terre, ni dans le cosmos. L'homme moderne est malade de n'avoir plus de racines, ni dans le passé, ne sachant d'où il vient, ni dans le futur, n'ayant plus de vision qui le porte. L'arbre, géant de l'espace et du temps, enraciné dans le ciel et dans la terre, mémoire des siècles et source de vie, ami de toujours, attends. Que l'homme s'arrête, qu'il le regarde et qu'il lui dise « Continuons ensemble ».
Il faut qu'il tombe, 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 vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Puis ma grand-mère s'en est allée, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seule sous le porche, en regardant jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir, qui parlent de la liberté. Mais si nous tirons, il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté.
Tu as pêché où, baobab, acajou?
Voici que cet épisode aux côtés d'un ami dévoué de l'eau verte prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle fraîchement cueillie.
Des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.